compléter, enfin, pour prolonger sur l'étude, moi, je dirais vraiment que ce que Vassiliev met en place de manière expérimentale, parce que lui-même, il est en, c'est pas figé, c'est pas, mais très précisément ce que j'ai eu l'occasion, donc, comme témoin, hein, d'observer quand il était donc responsable de la, du département mise en scène de l'ENSAT, ce que je l'ai vu faire avec vous. Ces jeunes élèves, et moins jeunes d'ailleurs, ils n'étaient pas très jeunes d'ailleurs, ce n'étaient pas des jeunes élèves, contrairement déjà, il avait dans l'idée qu'il fallait quand même avoir un peu de bouteille pour traverser ça, je crois qu'il avait raison. Mais surtout ce qui était frappant, c'est de voir que pendant 2 ans, donc, section mise en scène, ils n'ont fait que jouer, mais en fait c'est faux de dire ça comme ça, ils ont étudié, ils se sont mis dans cette structure de l'étude, et pour moi cette structure de l'étude, c'est l'école de théâtre même, c'est une possible définition d'une école de théâtre, parce que en fait, on confond quand même un peu trop les termes, il faut quand même le redire, ça. On parle d'école de théâtre, mais en fait, c'est des écoles de jeu, c'est des écoles d'interprétariat, je dirais même pas d'acteur, parce que c'est un certain type de travail de l'acteur qu'on y fait. Par exemple, on n'y apprend pas les écrits. On n'apprend pas aux acteurs à être écrivain ou écrit par le plateau. Enfin, ouais, cette méthodologie-là n'y est pas enseignée. Rodrigo Garcia l'avait aujourd'hui, un de ses collègues, avec la douceur qu'il caractérise, mais très frontalement, il lui a dit, mais ce que vous décrivez là, c'est l'école du 19e siècle. C'est quoi celle du 21e? Et il avait cette jolie réponse, qui n'est pas très loin de l'étude. Ça, c'est drôle, je n'aurais pas connecté. Merci. C'est une vraie connexion, ça. Et il a répondu cette phrase. Pendant 2 ans, il faut qu'ils apprennent tout l'art contemporain. Depuis les années 20 jusqu'au... Voilà, juste ça. Apprendre l'art contemporain. Et il me semble que amener ce point de vue comme ça, c'est... Alors, on peut être, évidemment, paraître dérangé, mais pourquoi? C'est ce qui se passe avec Vassiliev. Il a, et ô combien, dérangé la structure de cette école. Mais il l'a dérangé pourquoi? Justement parce qu'il faisait varier les termes. Il renversait les termes mêmes du contrat, en proposant, à mon avis, une école de la scène, une école du théâtre. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on devienne écrivain après, parce que pour moi, cette étude, c'est la matrice de tout. C'est ce qui va produire ensuite, bien sûr, le jeu, mais c'est ce qui va produire l'espace, c'est ce qui va, enfin, je parle sous contrôle de beaucoup plus spécialistes que moi, parce qu'ils ont arpenté ce plateau. L'étude, elle est physique, mais pour cette raison-là, elle va ensuite s'amplifier dans l'ensemble des pratiques du théâtre. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Je pense même que alors pour donc, cerner notre sujet, puisqu'il va bien d'une écriture par l'acteur, puisqu'il va bien d'un geste libre de l'acteur qui écrit sa compréhension et la façon dont il structure la pièce, enfin le texte, en tant qu'acteur, non pas en tant que dramaturge de l'acteur, mais en tant qu'acteur, comme il dit, avec ses pieds, quoi, ça se pense, le texte se pense avec les pieds. Et je crois qu'à partir de là, on a une palette extrêmement ouverte et on peut tout faire. Voilà. Et c'est ce qui rendait Vassiliev si sûr de lui en disant l'affaire de la mise en scène, vous voulez les mises en place, de la scénographie, ça viendra après, ça viendra comme conséquence, presque, on pourrait dire. Si ce cœur de chauffe-là n'est pas prêt, rien n'est possible. Alors, je n'ai pas très bien répondu sur les écritures de plateau, et tu as raison, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à en dire, c'est que c'est quand même un moment où s'opère effectivement un décentrement, une réorganisation des différents pôles, et c'est vrai que l'acteur y est remis au centre. Clairement, on peut dire ça, c'est globalement des gens pour qui l'acteur est bien plus qu'une distribution. Enfin, si on prend l'exemple de Pipo Del Bono, il distribue pas Pipo Del Bono, il vit avec des gens, tout simplement. Et accessoirement, ils font du théâtre. Donc les distributions, elles sont inhérentes au corps même des êtres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est plus du tout dans cette idée, ah tiens, je vais bien faire Agnès. Alors, plutôt, évidemment, non. Enfin, on est dans quelque chose où l'acteur est vraiment au premier plan, assurément. Et l'écriture. Alors en effet, moi je crois que ce qu'on peut dire quand même, c'est que par rapport à la génération de Laurent Godet, qui a encore été victime de ce que j'appelle les écrivains en chambre, quoi. Les écrivains qu'on a punis, je ne sais pas très bien pour quelle raison d'ailleurs, mais on a quand même été extrêmement virulents et violents dans notre façon de les chasser du théâtre, en fait. C'est pour moi quelque chose qui s'apparente à une... On les met dehors, quoi. On les met dehors pour les faire rentrer. Alors ça va avec évidemment la prise de pouvoir, l'invention, dans quel vocabulaire on dit, mais en tout cas l'invention de la mise en scène comme art, va avec la démonétisation de l'écrivain qui est au service de ce que le metteur en scène va en faire. Et je me souviens de discussion avec Laurent qui était très mari, et je suis ravi de voir qu'il reprend du service, mais il était très mari d'être laissé au bord du plateau, voire un peu en dehors du plateau, parce que le metteur en scène n'est pas forcément cette
je l'ai vu diriger,
logique que tu décris, hein, ce dialogue que tu décris, il y a des metteurs en scène que ça fait peur complètement.
De manière, comment dire, si on parle de direction d'acteur, c'est-à-dire accompagner un acteur très loin, c'est-à-dire sortir de la suite d'une approche un petit peu en surface et tout d'un coup aller dans des strates à partir de son propre texte, c'est-à-dire mais de le prendre ce texte avec une distance comme une énigme et d'aller dans des strates de plus en plus intimes et délicates. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui m'a frappé, c'était quelqu'un qui venait quand même, qui a une expérience créative solitaire, tout d'un coup il vient avec des acteurs et leur propose des situations, des mises en jeu que toi tu hésites parfois parce que ça va trop loin dans les, ça fait repousser les frontières de l'intime, c'est-à-dire tout d'un coup travailler sur l'annonce de la mort de ta propre fin par exemple et de proposer ça, ou comme Dieudonné Nyanguna tout d'un coup qui est lui aussi un acteur qui bouleverse les pratiques, qui amène à travers des propositions comme ce qui, quand il fait travailler sur l'humiliation, à repousser des individus, des personnes, mais un ensemble à des frontières, à la limite de l'insoutenable, qui amène à se questionner éthiquement, qui passe soit par un refus qui est accepté, soit par une entente qui amène à passer accord de confiance. C'est-à-dire que pour aller répondre aux expériences proposées, eh bien, il faut qu'il y ait un contrat de confiance et de grand respect. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
Il faut que l'auteur soit ramené.
Et ça vient
à du plateau.
Peut-être enfin, qu'il, voilà, parce que peut-être que ce qu'ils ont besoin de déployer dans une expérience un peu en secret, ils le proposent à ciel ouvert, et ces ouvertures amènent à travailler de manière peut-être moins complaisante, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de déranger, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont déranger forcément. Je ne sais pas si.
Mais pas. Non, c'est juste par rapport à ce que tu disais sur justement le fait que l'auteur avait été mis de côté pendant un certain nombre d'années.
Pas mis de côté, mis dans son bureau.
Mis dans son bureau, voilà. Mais il me semble aussi que c'est lié par rapport à la période historique qu'on est en train de vivre, hein, de l'histoire du théâtre, et justement, beaucoup de gens de ma génération, justement, acteurs, mais aussi metteurs en scène, chefs de troupe, de toute façon, vraiment plutôt attirés sur les. Soit travailler avec des auteurs directement, soit des écritures de plateau, ou alors soit. Des écritures contemporaines, tout ça, c'est aussi lié quand même, je pense, à l'essoufflement d'un mouvement quand même qui remonte aux années 50 en fait. Et il me semble quand même qu'en France, le théâtre d'art a quand même, il y a des exceptions évidemment, notamment par exemple le théâtre du Soleil des années 70 avec la création collective, Cantor, tout ça bien sûr, enfin Cantor en Pologne, mais jouer en France, mais ça a été marqué quand même par une nette prédominance des classiques et le grand metteur en scène qui a initié ça, c'était Planchon quand même, avec le principe de relecture contemporaine des classiques, ce que Vitez appelait la mise en scène sociologique justement. Et Planchon dans les années 50, c'est un mouvement quand même qui explose dans les années 70 avec des gens extrêmement brillants comme Vitez, comme Chéreau justement, qui vont plutôt. Quelqu'un comme Chéreau parle de Coltès, évidemment, mais si on regarde l'ensemble des mises en scène de Chéreau, le contemporain tient une place finalement, évidemment, qu'il y a Coltès qui est une aventure qui a marqué. Mais
parce et
Genet, bien sûr, tout à fait. Mais si on regarde au global, dans le travail de Chéreau, le théâtre classique occupe quand même la plus large part, en fait. Et il y a eu du coup, quand même, parce que c'était le metteur en scène qui finalement devient l'auteur par sa lecture du classique, en fait. C'était un petit peu ça qui se jouait. Et il me semble qu'on arrive quand même aujourd'hui vraiment, et c'est déjà quelque chose qui était dénoncé, je me souviens d'ailleurs, dans les entretiens de Coltès, je crois que Coltès dit ça en 87-88, donc maintenant ça commence à faire 25-30 ans. Et Coltès dit déjà en 87-88, il dit la relecture des classiques c'est bien, mais le problème c'est que ça fait. Enfin, il dit la relecture moderne des classiques c'est bien, mais le problème c'est que ça fait 30 ans qu'on relit les classiques de manière moderne. Donc, au bout de 30 ans, on pourrait quand même essayer de se poser la question de faire un peu autre chose. Et en fait, il me semble quand même qu'on est en train aussi d'assister, me semble-t-il, historiquement, à l'essoufflement quand même de cette dynamique. Voilà, qu'en tout cas, il y a en ce moment. Voilà, qui a quand même un peu un essoufflement de cette dynamique, et je pense qu'à ça répondent justement les écritures de plateau, le travail sur les textes contemporains, et un autre mouvement qui du coup tend à relativiser la part du metteur en scène, il me semble.
Il y a une très jolie histoire avec les auteurs contemporains. C'est vrai que Coltès, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a Genet, les paravents, c'est pas rien quand même. Et Genet, qui donc assiste aux répétitions, qui est déjà âgé et qui n'entend pas bien, on l'a mis sur le plateau. Il a sa place sur le plateau parce que comme ça, il est vraiment en lien direct avec les acteurs. Et le soir de la générale, évidemment, il faut que ce soit c'est une générale, quoi. Il faut qu'il ne sera pas là le lendemain, donc il ne peut pas être là. Et donc le régisseur général est chargé de le déplacer parce qu'il s'était installé sur le plateau. Et dans ses yeux se lisait vraiment le drame de l'arrachement. C'est-à-dire, je vois l'image de cet homme qui ne veut pas partir parce que c'est sa place, en fait. Voilà, je pense que c'est l'image résume ça très bien, quoi. C'est sa place. Il n'y aurait pas tout ça sans lui. Enfin, c'est tellement évident. Et quelles que soient les modalités du lien, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, en tout cas, c'est Philippe Ken qui dit ça au fond très bien quand il parle de la place de l'écriture dans son travail. Il dit, pour moi, l'écriture, elle vient exactement comme l'éclairage, quoi. À un moment donné, j'ai besoin d'un éclairagiste, je sais que lui va, et donc j'engage un éclairagiste, j'engage quelqu'un qui va écrire. Et c'est une façon de là aussi d'horizontaliser les choses de sorte que l'écriture n'en est pas dépréciée pour autant, loin de là, parce que chose qu'il faut quand même dire, c'est que l'acteur, oui, écrivain du plateau, mais s'il n'y a pas un écrivain, s'il n'y a pas Rodrigo Garcia derrière, ça ne produit rien, quoi. Même des grands acteurs, c'est-à-dire que c'est quand même des textes dont il s'agit. Et je pense qu'il ne faudrait pas résumer la séquence en disant voilà, on a fini avec les grands textes, on a fini avec le grand récit. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Fin des grands récits, alors arrive en effet le montage, la fragmentation, comme seule réponse, et je ne crois pas. Moi, je crois que du récit est encore possible, et de toute façon, tu parlais d'action, voilà, s'il n'y a pas une action fédératrice, il n'y a pas de théâtre, quoi. Il faut qu'il y ait une action qui se partage. Voilà. Et pour moi, c'est une définition du récit, et je crois, moi, au récit encore. Je pense qu'il faut, attendre, évidemment, des poètes. Enfin, moi, j'en parlais hier, je suis toujours troublé à Avignon, quoi, de voir cette cour désertée, enfin, le poème n'a pas sa place dans la cour d'honneur. Voilà. Parce que je ne peux pas dire autre chose, et ce depuis l'origine. J'avais eu la chance de faire une longue série d'émissions sur l'histoire du festival pour France Culture, et j'avais à cette occasion découvert un matériau épistolaire incroyable entre Jean Villard et tous les écrivains, je dis bien tous les écrivains de son temps, de Sartre à Pagnol, en passant par Supervielle, Camus, il n'y en a pas un qui ne l'a pas sollicité. C'est vraiment le petit prince. Écris-moi un poème pour ma cour. Il attendait le poète et il ne l'a jamais trouvé. C'est au fond les histoires de la cour. Les poètes contemporains ne sont que des histoires d'échecs. Hein. Bailly-Lavaudan, échec. Même le visage d'Orphée, pour ceux qui. C'était chaud. C'était pas une grande réussite. C'était pas un geste ultra fédérateur. Ça avait totalement clivé. Hein. Yann Fabre, n'en parlons pas, mais vous voyez, le poème dans la cour, voilà, ça reste une énigme pour moi. Et donc, oui, je crois qu'il faut vraiment militer pour ça. L'acteur libre, mais alors l'écrivain, quoi. Vraiment, il faut vraiment leur donner la place.
Mais cela dit, ça peut, justement, c'est une chose que tu disais au début, ou qu'effectivement, il y avait quand même la différence entre l'autonomie de l'acteur, enfin, entre la liberté de l'acteur et l'autonomie, justement. Je pense qu'effectivement, ce sont des fonctions et des actes différents. Effectivement, sans doute, l'écriture, le jeu, la mise en scène, ça peut être des actes différents, mais ça peut être la même personne. C'est-à-dire, c'est pour prendre l'exemple typique, c'est l'exemple de Philippe Cobert, par exemple. Mais Cobert, c'est pas seulement un acteur, c'est un auteur, véritablement. Il écrit en improvisant, mais de fait, il y a un travail d'écriture qui est énorme. C'est réellement.
On appelle le syndrome de Thespis.
Ah oui ?
Thespis qui écrivait des tragédies, qui les jouait, voilà, qui portait tout dans son dos. Il était, alors, pour le coup, dans une autonomie de l'art absolue.
Et même dans un autre style, parce qu'on dit souvent, par exemple, qu'il y a le groupe TG Stan aussi, on parle souvent du TG Stan en disant qu'il n'y a pas de metteur en scène, mais ce n'est pas vrai, ils sont tous metteurs en scène en réalité. C'est tous, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, ils sont tous et comédiens et metteurs en scène.
Et tout est voté à l'unanimité.
Oui, c'est qu'ils occupent les.
Tout doit être voté à l'unanimité. Aucune décision n'est prise si elle n'est pas votée à l'unanimité. Vous imaginez ? Donc ça fait des réunions de 2 à 3 jours. Et donc quand une idée n'est pas votée à l'unanimité, elle redescend au parking. Et 5 jours, ils ressortent les questions laissées au parking. C'est extraordinaire. Moi, ça me rendrait fou, mais ils se tiennent absolument à cette règle que je trouve géniale. Tout le monde fait effet, mais en avant les termine. Et on pense du côté de ce qu'on voit, mais pas du côté de comment ça se dessine. Et derrière, c'est
juste ça, quoi. C'est à l'unanimité des quatre, les quatre fondateurs. Après, les autres n'ont pas tout à fait le même... Cette question de l'autorité m'intéresse aussi, parce que je crois quand même qu'il faut dire qu'un grand artiste, il est autoritaire, enfin, c'est... Voilà, il y a une autorité, quoi. Mais alors, il y a une autorité, mais le grand artiste aussi, c'est se laisser contester. Et je me souviens que quand on crée Gibier du Temps, donc c'est une très très longue œuvre, 9 heures, 3 par 3 époques, Gabili était à des moments un peu secs, enfin, le mythe qu'il écrirait au bord du plateau tout le temps pour les acteurs, bien sûr, il l'a fait à certains moments, très précis, mais pas tout le temps. Et je me souviens très bien d'un moment vraiment de panne, quoi, il décide de repasser finalement en mode recherche, on pourrait dire, et donc il fait mettre au plateau la quasi-totalité d'un de ses romans qui venait de paraître. Alors qu'on avait juste 9 heures de spectacle à produire. Et donc, il passe 3 semaines à ne faire que ça, travailler sur ce roman. Et donc, les acteurs se sont révoltés, bien sûr. Les acteurs se sont révoltés. Il y a une espèce de mutinerie très, très féconde, très violente, bien sûr, parce que c'était des relations assez musclées, mais incroyablement féconde sur le... Et il a entendu quelque chose d'eux, ont enduré ça, et ça, voilà, ça nous a mis au travail. Je suis sûr qu'on n'aurait pas sorti la deuxième époque de Gibier du Temps, qui pour moi était la plus belle, s'il n'y avait pas eu cette grave crise, parce qu'on peut parler quand même comme ça, de leadership, disons-le, de leadership.
Par rapport à ça, j'aimerais bien avoir l'avis de Jean-François sur un point, parce que ça m'évoque une réflexion de Mouchkine que j'avais lue, et j'aimerais bien voir ton avis par rapport à ton expérience, justement, au Soleil. Et parce que ça m'avait beaucoup marqué, c'est un propos une réponse qu'avait fait Mouchkine, un journaliste qui m'avait beaucoup marqué là-dessus, où elle parlait justement du fait de travailler en collaboration, et que, elle disait, quand ça marche au Théâtre du Soleil, c'est que vraiment, on est d'accord, on a tous envie de faire telle chose sur un point précis. Et le journaliste dit, bon, ben oui, mais s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et tout ça, il fait, qui c'est qui tranche? Qui c'est qui a le dernier mot? Puis elle dit, mais non, on est d'accord. Et à un moment donné, le journaliste insiste, qui c'est qui a... Et elle dit une chose vraiment très intéressante, elle dit, alors, bien sûr, s'il y a vraiment un conflit et qu'il faut avoir le dernier mot, c'est moi qui ai le dernier mot. Mais si je suis obligé d'avoir le dernier mot, c'est déjà un échec. Et je sais pas.
Ça, c'est du grand Mouchkine. Ah, ça, c'est du grand Mouchkine.
Waouh. D'abord, il y a des grandes périodes. Parlons des périodes fécondes, hein, d'un ensemble, d'un groupe. Et dans quelque chose qu'on peut noter, c'est que lorsque, par exemple, la Compagnie du Soleil ou quoi, traverse ces périodes de fécondité, eh bien, c'est qu'il y a des personnalités. Et qu'il y a, ça, je me souviens bien, de personnalités qui... permettait de tisser tout un réseau de compagnonnage, de stimulation, etc., qui échappait à Ariane. C'est-à-dire qu'elle n'était pas forcément derrière, dans les soubassements. Il y a un peu les loges, on voit bien, d'ailleurs, c'est un peu le lieu de l'accouchement, hein, puisque souvent elles sont placées en dessous de la scène ou à côté. Mais là, dans tout ce réseau souterrain, eh bien, il y a toute une transmission, un apport des plus expérimentés. C'est ça, d'ailleurs, qu'on ne rencontre pas dans les écoles, parce que les écoles, il y a un nivellement, tout le monde a le même âge, la même expérience, et je trouve que vraiment, je partage tout à fait l'aspiration de Thierry Tuenyang à travailler avec tous les âges, tous les corps, des corps handicapés, des personnes âgées, des gens de... Voilà. Parce que ça fait un brassage d'expérience inouïe et qui échappe totalement à... qui permet de créer des rebelles. Parce que ça, cette idée, on parle de liberté contrainte, c'est ça, hein, et ben, c'est l'idée de rebelle. C'est-à-dire que derrière, tout grand acteur est un rebelle face à ses... Georges Bagnou aussi qui le dit, mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a ce besoin de... Comme ça... C'est un jeu aussi, ça. C'est-à-dire, dans cette relation. Moi, j'aime bien ces caractères, cette dimension caractérielle. Tu parlais de Vassiliev, mais... Il y a quelque chose... Ça fait... Je crois que... En fait, c'est pour... il faut se méfier des donneurs de leçons Et c'est le côté un peu où je me méfierais d'Ariane quand elle se mêle de un peu trop de parler de démocratie, parce que si jamais elle reportait dans la vie civile son mode de fonctionnement, on retombe dans une monarchie terrible. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va mettre en jeu parfois pour travailler certains thèmes, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport entre, pour les Atrides, par exemple, c'est l'histoire d'une famille qui se déchirait, les déchirures. Elles y étaient. Enfin, il y a toujours un aller-retour entre peut-être c'est ça qui apparaît peut-être un petit peu nouveau dans ce qu'on appelle les écritures de Platon, les collaboratifs, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, intention de lier plus fortement l'expérience des personnes œuvre ensemble sur un plateau et d'aller dans un drôle de jeu avec les personnages qui ne sont plus vraiment des personnages mais qui sont plus des rôles. Et ça c'est là où c'est ça change, c'est pas tant le texte, etc. On est plus dans, on a dépassé la notion d'interprétation pour être plutôt dans un drôle de jeu entre fiction et réel, entre l'expérience du plateau, l'expérience du collectif, et voilà, d'aviver cela. Mais ça, c'est pas nouveau, hein.
Non, mais c'est quand même très impressionnant à voir. Moi qui ai donc eu la chance d'assister au tournage de Julien, comment ça s'appelait? Naufragés pour l'espoir, c'est vraiment très impressionnant de l'avoir parlé avec les personnages. Je dirais, elle parle avec les personnages, elle parle pas avec les acteurs, elle parle avec les personnages. Et l'autre chose, alors monarchie peut-être, mais quand même monarchie très. Parce que qu'est-ce qu'elle écoute sur le plateau? C'est ça qui m'a frappé. Elle écoute énormément. En effet, le Ralph Nalcott, mais qu'est-ce qu'elle a écouté avant? Non, c'est vrai. Ça, c'est très frappant quand même, tu vois. On n'est pas dans l'idée d'une. Et puis, c'était bouleversant de la voir après donc deux services quand même, en qui un troisième service sur un petit tabouret où elle préparait le tournage du lendemain, où elle faisait toutes les hypothèses de placement de caméra, de mouvement de caméra. Et je veux dire, elle se donne les moyens d'être une autorité. Je sais pas comment dire ça. Et parmi ces moyens, il y a une grande liberté de parole quand même. Ça, il faut le dire, non, Jean-François?
De toute façon,
même si ça va gueuler, même si ça parle très librement, beaucoup plus librement que dans plein d'équipes où on ne conteste pas, où le metteur en scène dit on fait, enfin tu vois. Alors tu peux me dire c'est une mise en scène de la chose?
Non. Il fut un temps où le soleil était défrayait Avignon, défrayait, il y avait une libération, comme ça ressortait des articles un petit peu. Qui était malvenu parce que ça, qui voulait aviver des frustrations ou des aigreurs, oui. Et c'est malvenu parce que quand même nous ne sommes pas des masochistes.
Voilà, c'est ça. Enfin,
un acteur, il accepte parce qu'il sait que au bout du terme. Qui est-ce qui va se retrouver dans la cour du Palais des Papes à faire un tabac que les gens ils s'en souviennent encore aujourd'hui? Et quand même, et après, tu sais que tu vas parcourir le monde avec des. Le jeu en vaut la chandelle, donc tu sais qu'elle est capable. C'est-à-dire, tu sais qu'elle est capable de te mener là. Et donc, tu acceptes ce jeu d'exigence, avec tout ce qui va avec. Et le jour où tu commences à sentir que. Dans la balance des équilibres, tu t'en vas. Voilà.